métier de la terre au carré et c'est Yvan Lemaire, je vous appelle, de Rambercourt. C'est un petit village d'une centaine d'habitants en plein cœur de parc naturel régional de Lorraine. Et pourtant, notre environnement sonore est complètement envahi par le vol de petits avions de loisirs décollant d'une ancienne base militaire de l'OTAN à proximité. Alors cette base appartient à la région qui la soutient financièrement et possède même une école d'aéronautique qui est soutenue par le parc naturel régional de Lorraine lui-même. La question que je me pose, c'est comment de telles structures publiques peuvent soutenir l'activité d'une poignée de personnes qui nuit à la qualité de vie de milliers d'autres aux alentours. Merci à vous, bonne émission, à bientôt.
Bonjour, c'est Alice, à côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Je vous téléphone au sujet de l'émission sur le bruit. J'ai un voisin qui possède 4 ou 5 chiens. Nous sommes à la campagne. Ces chiens aboient relativement fréquemment. Ça peut être en permanence, toute la journée, à tel point que quand nous sommes dans notre jardin avec mon mari, parfois on ne s'entend plus parler. Pour couronner le tout, je suis infirmière, donc je suis amenée à travailler de jour, de nuit, donc cela engendre des difficultés de sommeil. Nous avons tenté une médiation. Je voudrais savoir quel recours je pourrais avoir pour arrêter cette nuisance, cette pollution sonore. Merci.
Bonjour, Emmanuel de Paris. J'apporte mon soutien aux salariés d'EDF qui ont manifesté contre les mesures complètement baroques du gouvernement pour manipuler les prix. Si nous sommes dans une transition énergétique, alors il faut changer nos habitudes. Je vois autour de moi, personne n'a rien changé dans sa vie quotidienne. On consomme de l'électricité comme d'habitude, alors que les prix sont au plafond. Voilà, mais en tout cas, j'apporte tout mon soutien aux salariés. On leur enlève leur raison d'être, raison de travailler en changeant les règles comme ça d'une manière populiste. Merci.
Oui, bonjour, c'est Jean-Marie à Mons-le-Roux, dans l'Isère. J'entends votre chronique sur la pub à France Inter. À mon sens, il manque encore un élément, ce sont les messages qui nous prennent vraiment pour des débiles, quoi. Type les opticiens, machin chouette, là, qui me cassent les pieds, mais jamais j'irai chez eux, jamais, jamais, jamais. Moi, je trouve qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles, voilà. Merci, à bientôt.
Bonjour, Julie de Genève. J'appelais pour rebondir sur les remarques qui ont été faites sur la publicité sur France Inter, notamment. En fait, moi, je trouve très personnellement que nous avons beaucoup de chance d'avoir des émissions de cette qualité. Et s'il faut en passer par de la pub, les gens qui écoutent vos émissions vont pas cesser de convaincre par une pub sur des vérandas ou autre. Donc, c'est juste un mauvais moment à passer. On passe à autre chose. Et ça représente quand même très, très, très peu de temps sur le temps d'antenne par rapport aux autres chaînes. Donc, merci pour vos émissions. Et puis, on ferme les oreilles à ce moment-là. Au revoir.
Voilà, en attendant peut-être un jour que toutes les pubs climaticides disparaissent de cette antenne, et bien faites comme Julie, bouchez-vous les oreilles, c'est effectivement un bon moyen pour ne pas les entendre. Et puis pour Alice, notre auditrice, il y a des problèmes de bruit avec les chiens de ses voisins, et bien vous pouvez peut-être lui donner ici même vos conseils pour qu'elle se fasse aider. Le numéro, c'est le 01 56 40 45 45. Et la semaine prochaine, notre répondeur prendra les couleurs des Pyrénées, où nous serons pendant toute la semaine. On va vous en reparler, évidemment. Au menu de notre club de la Terre au Carré cet après-midi, on vous emmène faire un tour dans la Lozère tropicale, à l'époque où de bons gros dinosaures fréquentaient la région. On fera connaissance avec un paysan du Burkina Faso qui a reverdi le désert de son pays. Et puis, amateurs de jeux de société, préparez vos plateaux, on va vous parler des meilleurs jeux consacrés entre autres à la nature et à l'espace. Et pour parler de tous ces sujets, on accueille nos invités, le paléontologue Jean-David Moreau, le géographe et anthropologue Damien Deville et Simon Murat, expert S-jeu de société et youtubeur. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonsoir.
Bienvenue, on va se retrouver dans un instant pour un premier tour de table. Vous allez bien sûr répondre aux messages des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec les notes vocales. Et puis comme tous les vendredis, nous aurons notre dose de bonnes nouvelles avant le week-end. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On parlera de quoi aujourd'hui?
Le retour du sanglier Woody, des flammes bleues, un week-end pour compter les oiseaux et des iguanes congelées sur la tête, peut-être.
Et bien voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Emma Bouvier et Leonardo Kahn, avec à la technique Jérémy Kaufmann.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
sur France Inter.
Allez, on démarre avec un premier tour de table. On commencera ce club avec vous, Jean-David Moreau, à l'occasion donc de la publication qui est sortie il y a quelques jours, une étude que vous signez et qui détaille toutes vos découvertes en paléontologie, donc sur le plateau de Cosméjan en Lozère, sauf que tout ça nous ramène il y a 150 millions d'années. Quel est le fossile que vous avez découvert et qui vous fait le plus vibrer ?
Alors, je pense que le fossile le plus remarquable de ce gisement du Cosméjan, c'est un petit reptile qui mesure une vingtaine de centimètres de long, qu'on appelle un rhynchocéphale, et qui est aujourd'hui représenté par un seul et unique vivant, qui est le sphénodon, qui vit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande.
Jurassic Lozère, ce sera avec vous. Donc, dans un instant, Damien Deville, vous publiez ce livre, L'homme qui arrêta le désert. C'est aux éditions Tana. Cet homme, c'est Yacouba Sawadogo. C'est un paysan que rien ne prédisposait à être désigné champion de la Terre par les Nations Unies. Il est donc vraiment parvenu à freiner l'avancée du désert?
Il est parvenu à freiner l'avancée du désert. Et surtout, je crois qu'il incarne depuis son petit bout de terre du Burkina Faso quelque chose dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Une réconciliation entre nature et culture.
Et puis enfin, Simon Murat, vous êtes le gérant du magasin Le Passe-Temps à Toulouse, spécialisé dans les jeux de société. Vous avez aussi créé une chaîne YouTube dans laquelle chaque semaine, vous présentez les nouveautés, jeux. Et dans ces jeux, on trouve de plus en plus de jeux consacrés à l'écologie et à l'espace. L'écologie, c'est vraiment un bon thème pour s'amuser, franchement ?
Alors, la nature est un bon thème pour s'amuser, parce que ça nous sort peut-être sans doute de notre quotidien. Ça nous amène à découvrir d'autres choses et ça a un côté très apaisant et très plaisant à jouer.
Vous nous direz quels sont évidemment vos coups de cœur dans ce domaine. Et puis c'est l'occasion aussi en ce moment de demander aux auditeurs de la Terre au Carré quels sont les jeux de société consacrés à la nature et à l'espace qu'ils préfèrent. Vous pouvez nous le dire sur le compte Instagram et en commentaire Twitter sur les comptes de l'émission.
Alors c'est quoi que j'appelle?
Alors, c'est quoi ? Et c'était Lerita Mitsuko.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Des empreintes de dinosaures en plein cœur des Cévennes, cela paraît étrange. Et pourtant, il y a 200 millions d'années, le paysage était vraiment différent. Pendant 4 jours, des membres de l'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc ont fouillé, creusé, gratté le site du Mazel, avec une émotion renouvelée à chaque découverte.
C'est clair qu'il y a eu des émotions. Tout à l'heure, on s'est allongé en se disant on est sur la plage, là, il y a 200 millions d'années, avec les dinosaures. Là, ils marchaient au bord de la lagune, là, dans la boue. Voilà, c'était Palavas, les étangs de Palavas, il y a 200 millions d'années, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas d'humains.
Voilà, une vidéo Cap Sud-Ouest, décembre 2016. Et votre confrère Alain Jacquet, sur le lieu des fouilles dont nous allons parler avec vous, Jean-David Moreau, hein, vous qui êtes paléontologue et géologue. Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire biogéosciences de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, vous êtes aussi responsable de cette association Paléontologie des hauts plateaux du Languedoc. Vous êtes spécialiste en empreintes de dinosaures, c'est ça?
Entre autres, mais en effet, je travaille sur les empreintes de dinosaures, en particulier dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle le bassin des Causses, qui est un immense bassin avec des plateaux calcaires, où on a la chance d'avoir des dizaines de gisements à empreintes de dinosaures, et ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années, en effet, que je travaille sur certains de ces gisements.
Oui. Spécialiste en empreintes de dinosaures, ça se met sur un passeport quand même, hein, parce que c'est pas mal. Hein.
C'est original.
Il y en a beaucoup des empreintes de dinosaures dans le catalogue que vous avez?
Alors, à l'échelle du bassin des Causses, des empreintes, il y en a plusieurs centaines, en effet, voire plusieurs milliers, et des gisements, il y en a plusieurs dizaines. Alors donc, c'est réparti entre l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère.
Ouais. Donc c'est vraiment jurassique, Lozère entre autres. Hein.
Oh, oui, on peut dire ça.
C'était un hotspot des dinosaures il y a plus de 200 millions d'années maintenant.
Oui, en fait, on a des empreintes qui ont 200 millions d'années, d'autres qui ont 170 millions d'années. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut voir un petit peu la modification de morphologie des empreintes en fonction du temps, donc sur le temps long, pour essayer de comprendre quelles étaient les communautés de dinosaures qui peuplaient donc le bassin des Causses, et donc le sud du massif central, au cours du Jurassique.
Et comment les empreintes restent aussi longtemps, justement, dans... Enfin, comment ça se fait que 150 millions d'années plus tard, elles sont encore visibles?
Alors, si vous voulez, en fait, toujours pareil, il faut garder en tête que la fossilisation, ça reste un ensemble de processus extrêmement rares qui nécessitent des conditions très particulières. En gros, vous étiez sur une plage il y a à peu près 200 millions d'années.
Donc, une super plage, hein, une plage tropicale quand même.
Exactement.
Hein, à 25 degrés.
Exactement, exactement. Et donc, les dinosaures ont laissé leurs empreintes, si vous voulez, sur cette plage ou dans ce marais maritime. Ensuite, il a fallu très rapidement que ces empreintes soient recouvertes par une nouvelle couche de sédiments pour les protéger, ça c'est très important. Et ensuite, plusieurs centaines d'autres couches de sédiments vont se superposer dessus pour ensuite les enfouir et donner une roche.
Et donc justement, il y a quelques jours, vous avez publié une étude dans Geological Magazine qui détaille les découvertes que vous avez effectuées dans ce plateau du Causse-Méjean. Ça représente 15 ans de fouilles. Donc ce lieu, il était tout à fait particulier. Vous venez de nous le décrire. C'est 1000 mètres d'altitude aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quoi alors?
Alors, en gros, vous étiez donc on est à 1000 mètres aujourd'hui, mais à l'époque, c'était au niveau zéro. On était vraiment au niveau de l'océan, si vous voulez, sur une partie littorale, en bordure de plage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en Lozère. On est au pied du massif central et que le massif central correspondait à une gigantesque île. Cette île était positionnée du point de vue latitudinal beaucoup plus bas, beaucoup plus près de l'équateur et notamment en particulier près de l'Afrique du Nord. Donc évidemment le climat était complètement différent, on avait un climat qui était plutôt tropical, beaucoup plus chaud. Et puis finalement dans cet environnement très particulier, on avait une lagune tropicale, dont on a les témoignages aujourd'hui, via tous les spécimens qu'on a pu découvrir dans ces nouveaux gisements du Causse-Méjean. Ouais.
Qu'est-ce qu'on appelle un fossile, tiens d'ailleurs? Parce que c'est très large au fond comme terme. Hein.
Un fossile, c'est en gros, ça va regrouper toutes les traces d'organismes biologiques qu'on va pouvoir retrouver piégés dans la roche. Donc ça peut être le corps en lui-même de l'animal, mais ça peut être aussi...
Donc des os, par exemple.
Des dents, ça peut être des parties molles, ça peut être des tissus, dans des cas extrêmement rares. Mais aussi, attention, un fossile, ça comprend aussi toutes les traces biologiques laissées par un animal, c'est-à-dire une empreinte. On en parlait tout à l'heure, des empreintes de pas qui témoignent par exemple d'un comportement. Ça peut être un terrier préservé dans la roche aussi, et c'est aussi des fossiles.
Ouais, donc c'est très large.
C'est très large, ouais. Tout à fait.
Et alors donc vous qui êtes spécialiste des empreintes, pourquoi les empreintes, vous les trouvez certainement plus fascinantes, en tout cas vous êtes allé dans cette spécialisation, que par exemple un bout d'un squelette?
Ça a été un concours de circonstances, si vous voulez. Donc moi je suis originaire donc du bassin des Causses, et assez précocement, j'ai commencé à m'intéresser aux gisements régionaux, et c'est justement ce qu'on a en abondance. Et on avait encore beaucoup de lacunes, beaucoup de questions concernant ces empreintes et concernant justement les auteurs des empreintes.
Mais au-delà justement nous dire qui déjà était l'auteur de l'empreinte, qu'est-ce qu'elles apprennent de plus les empreintes?
Alors déjà, ça c'est un point qui est important, le fait d'apprendre qui étaient ces empreintes, oui. Puisque dans le bassin des Causses, on a, pour le Jurassique, aucun ossement de dinosaure.
Zéro,
rien du tout. Ouais. On n'a aucune coquille d'œuf. Donc ça veut dire que les empreintes sont le seul outil qu'on ait pour reconstituer qui étaient ces dinosaures et mettre des hypothèses sur qu'est-ce qu'ils faisaient ici, quel était leur comportement, à quelle vitesse ils se déplaçaient.
Tout ça, vous pouvez le lire dans une empreinte.
On peut le discuter. On peut le discuter. C'est un site dans son ensemble qu'on va étudier. Si vous voulez, on ne va pas étudier que les empreintes, on va étudier également les roches en elles-mêmes pour comprendre quel était le milieu de dépôt, dans quel type d'environnement se sont fossilisées ces empreintes. Voir si ces dinosaures vivaient, se déplaçaient en communauté. Est-ce que c'était des individus isolés? Est-ce que c'était des troupeaux? Voilà le genre de questions qu'on essaye d'évoquer et de résoudre.
Alors Jean-David Moreau, la publication en l'occurrence, elle ne concerne pas que des empreintes, loin de là, parce que c'est toute la faune et la flore de l'époque que vous avez mis en avant.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez découvert lors de singulier, dites-nous, parce qu'on ne va pas faire un inventaire. Je crois qu'il y a eu 200 fossiles, c'est ça qui ont été analysés.
C'est ça.
Décrit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 15 années de fouilles?
En gros, donc là, on évoquait des sites à empreintes de dinosaures. Ces sites à empreintes de dinosaures, tout à l'heure, dont on parlait, ont 200 millions d'années. Là, on est sur des sédiments qui sont un petit peu plus récents. On est dans ce qu'on appelle le Jurassique terminal. On est il y a 145 à 150 millions d'années. Tous les fossiles qu'on trouve là-dedans sont très intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un gisement, on a en tout deux gisements sur le Cosmégen qui montrent une association très originale qui mélange des organismes continentaux, terrestres, et des organismes marins. Tout ça dans les mêmes couches. On va avoir donc des plantes terrestres, donc on va avoir des conifères, on va avoir des bénétitales, qui sont par exemple un groupe de plantes qui aujourd'hui ont complètement disparu. On a également un reptile qui a été trouvé, dont j'évoquais le cas tout à l'heure, donc le cas d'un rhynchocéphale.
On a mis des photos d'ailleurs sur le compte Instagram de la Terre au Carré pour ceux qui souhaitent voir à quoi ça ressemble. En story, on a mis le fameux reptile dont vous parlez justement.
Donc ça c'est pour le côté continent, mais on va avoir beaucoup d'organismes marins, essentiellement des mollusques, notamment des ammonites, qui sont des céphalopodes, vous savez ces céphalopodes enroulés, qui sont des éléments importants pour nous paléontologues, puisque c'est grâce à ces fossiles qu'on va pouvoir dater les couches. Associé à ces ammonites, on a des bivalves, on a des gastéropodes, tout un tas d'autres mollusques, on a également des crustacés qui sont remarquablement bien préservés, et puis des poissons. Des poissons qui montrent des squelettes qui sont préservés dans leur intégralité, avec une connexion anatomique qui est quasiment parfaite. Donc on est vraiment sur des cas de préservation remarquables.
Mais comment on explique ce mélange alors entre le terrestre et le marin? Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça fasse aujourd'hui une seule couche sédimentaire?
Alors en gros, vous êtes dans un environnement très particulier. Cet environnement de lagune qui est à l'interface entre la terre et la mer. Il faut imaginer une lagune qui est protégée par des barrières de coraux, donc des récifs coralliens. Et finalement, on va avoir des apports qui viennent à la fois donc du continent, mais également de la mer. Donc notamment pendant les tempêtes, on peut imaginer par exemple avec des organismes qui vont être charriés à l'intérieur de cette lagune. Et en gros, on va avoir un mélange d'organismes qui ne vivent pas dans le même environnement, mais qui sont retrouvés ici, piégés dans ce bassin sédimentaire. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va être capable, à partir de tous ces fossiles, donc de ces 200 fossiles, d'avoir une reconstitution qu'on essaye d'avoir la plus fidèle possible, de la faune, de la flore et de l'écosystème qui était présent ici sur le Cosmégen il y a 150 millions d'années.
Et pourquoi pas de traces de dinos alors? Pourquoi il n'y a pas d'ossements de dinos alors qu'en Charente-Maritime, par exemple, il y a de très belles découvertes qui ont été réalisées avec vraiment des grosses bêtes, et vous, rien du tout?
Dans ces niveaux-là, donc ceux du Cosmégen, donc ceux qui sont datés du Jurassique terminal, non, on n'a pas d'empreintes de dinosaures. Pourquoi? Parce que si vous voulez, ces calcaires se sont formés dans la lagune. On est au fond de la lagune. Il faut imaginer un environnement où vous allez avoir une épaisseur d'eau qui sera assez faible, mais donc on est quand même dans l'eau. Une eau qui sera assez chaude. Un environnement qui est relativement protégé, restreint, mais néanmoins, à aucun moment, cette lagune va être émersive. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, on va sortir de l'eau. Et en fait, les dinosaures, eux, ils marchent où? Ils marchent donc sur le bord, si vous voulez. Donc dans les marais, sur la plage, mais pas à l'intérieur de la lagune. Donc, en gros, le fond de la lagune, c'est ce qu'on fossilise ici, mais non pas la plage. Donc,
alors, ces fossiles, une fois qu'on les a découverts, comme ça, sur autant d'années de recherche, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le public pourrait les voir?
Alors, pour l'instant, donc, comme l'étude vient d'être publiée tout fraîchement, on est encore en train de réfléchir ce qui va être faisable. En tout cas, à court terme, ce qui est sûr, c'est qu'on va organiser donc par l'intermédiaire de l'Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc des expositions temporaires, mais également des restitutions par des conférences.
Donc on pourra les voir.
Oui, tout à fait.
Ça va prendre un petit peu de temps.
Oui, ça prendra un peu de temps. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, bien entendu, c'est les voir exposés dans une exposition.
Bah oui, nous aussi, on aimerait bien les voir.
Oui, tout à fait.
Donc il faut être un petit peu patient. Damien Deville, une question.
Pour aller dans votre sens, Mathieu, Jean-David, quelle vertu pédagogique a ces fossiles aujourd'hui, notamment face aux crises écologiques, sociales? Quel intérêt ça a pour le public d'aujourd'hui de s'y intéresser?
Alors, c'est toujours pareil. Je pense qu'il est toujours important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans l'ancien, comment ont évolué justement ces écosystèmes, comment ont évolué ces faunes et ces flores, pour comprendre un peu mieux comment, aujourd'hui, vont évoluer nos écosystèmes. Et ça, c'est des éléments qui sont assez importants d'une manière générale. Mieux comprendre le passé pour essayer de comprendre
le présent.
Sauf que les conditions, on l'a vu, hein, étaient pas du tout les mêmes au niveau du climat. La teneur en oxygène, par exemple, n'était pas la même non plus qu'aujourd'hui.
Non, bien sûr, un petit peu différente. On n'a pas, sur le gisement sur lequel on travaille, on n'a pas d'éléments de comparaison, mais en effet.
Simon Murat? Il y a des jeux de paléontologie ou pas autour des dinosaures? Est-ce qu'on trouve ça?
Il y a des jeux sur...
J'imagine.
Surtout, les dinosaures étaient un thème de prédilection de pas mal d'auteurs et de joueurs.
Et c'est encore, c'est encore le vent en poupe en ce moment ou pas?
Ouais. Il y a même des jeux de fouilles archéologiques. On se trouve avec des blocs à taper dessus avec un marteau et ça fait tomber des éléments qu'on collectionne. Il faut en récupérer plus que d'autres, reconstituer des os. En fait, quand on pense à un archéologue, ça fait marrer. On dit, on va retrouver des os, les assembler. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer.
Bon, le jeu existe, pour tous les futurs archéologues. Jean-David Moreau, vous restez avec nous, en tout cas bravo pour ce travail et pour ces 15 années de fouilles qui font l'objet de cette publication.
France Inter. La Terre au carré.
14h25, on passe vers Camille Cronier avec les curiosités et surtout les bonnes nouvelles de la planète.
Et d'abord, oh yeah. Oui, bon, c'est ridicule, c'était juste pour avoir un semblant de bruitage victorieux, parce que Woody est rentré à la maison. Woody, vous savez, c'est ce marcassin qui s'était réfugié chez une habitante du Lot-et-Garonne pendant une partie de chasse et que les autorités lui avaient enlevé il y a quelques jours. Eh bien, la mobilisation pour qu'elle le récupère, avec notamment plus de 76 000 signatures pour la pétition Sauvez Woody, a marché, puisque le petit sanglier a donc finalement été rendu à Véronique Consolo.
Ça y est, il est là. Total.
Il va bien ?
Il va bien, oui. Il a retrouvé ses marques, il n'a pas l'air perturbé. Il est allé voir de suite le chien, les chats et la truie. Là, il est à côté de moi, il est en train de renverser la gamelle d'eau. C'est un passe-temps favori. Voilà, il est sorti d'affaire, on viendra plus nous embêter. Puis il va pouvoir faire sa petite vie de sanglier domestique pour 15 ou 18 ans, j'espère. Et on va en profiter.
C'est lui qu'on entendait.
C'était lui qu'on entendait. 15 à 18 ans, ça vit assez longtemps, un sanglier. Et je reprécise quand même que Woody n'aurait plus pu survivre en milieu naturel et qu'il avait refusé d'y retourner, mais que recueillir un animal sauvage, s'il vous plaît, ça reste pas du tout recommandé. Vous les laissez là où ils sont. Alors, on a entendu rapidement donc son petit grognement à Woody à travers le téléphone. Gracieux. Mais reconnaissez-vous celui-là?
Damien Deville. Ah, ça, c'est pour vous.
Enfin, plus cher, peut-être?
Non.
Grognement des hippopotames, enregistré au Mozambique par l'équipe du chercheur en bioacoustique Nicolas Madvon de l'Université de Saint-Étienne. Il vient de percer certains mystères de ces sons qui peuvent, au passage, s'entendre jusqu'à 1 km à la ronde. Les hippos reconnaissent les voix de leurs copains et celles des étrangers. Et puis, du coup, ils se préviennent. Attention, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive. Ils se parlent, en quelque sorte. Ce qui peut aider aussi à leur préservation, c'est-à-dire dans la revue Current Biology. Pendant ce temps, du côté du Mékong, un rapport du WWF annonce cette semaine la découverte de 224 nouvelles espèces, découvertes dans les deux dernières années. Détail avec Arnaud Goffier, l'un des porte-paroles.
Alors, essentiellement des plantes, quelques poissons, des amphibiens, mais aussi on a découvert un nouveau mammifère, ce qui est assez rare, le singe langur popa, du nom du volcan auprès duquel il a été découvert. C'est une bonne nouvelle, mais pour atténuer un petit peu ça, je suis désolé, il y a toujours un mais. C'est une espèce dont il reste que 200 à 250 individus. Et donc, comme d'autres espèces découvertes récemment, là, dans cette région, la grenouille à grosse tête, par exemple, il faudrait pas qu'elle disparaisse à peine découverte.
À cause notamment de la déforestation et de l'urbanisation. Il nous parlait du volcan Popa, Arnaud Goffier, en Birmanie. Moi, je vous emmène au piton de la Fournaise, à La Réunion, dont on a vu jaillir des flammes bleues à la mi-janvier, avant qu'ils ne s'éteignent à nouveau. Image assez dingue et phénomène rare. Ça s'appelle la chimiluminescence. Les flammes bleues viennent en fait du soufre qui n'a pas été éjecté par le volcan et de sa combustion à très haute température.
Là, il y a un accenteur mouché qui chante. Là, il y a un grimpeau qui crie.
Alors, changement de décor. Nous sommes désormais, vous avez vu, on voyage à Brest avec un ornithologue interviewé par nos amis de France Bleu Brésil. Parce que ce week-end, c'est comptage national des oiseaux de jardin. Opération dont c'est déjà la 10e année, lancée par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, où Marjorie Poitevin est justement responsable de l'Observatoire des oiseaux de jardin. Le mode d'emploi est tout simple et surtout accessible à tous.
Qu'on soit à la ville ou à la campagne, peu importe, qu'on s'y connaisse en oiseaux ou pas.
peu importe. L'idée de ce week-end, c'est de choisir un lieu, donc un jardin public ou un balcon, et de compter pendant une heure exactement tous les oiseaux qui viennent fréquenter ce jardin, en faisant bien attention de ne pas compter deux fois le même oiseau. En cette période froide, la période la plus propice pour observer, ça va être fin de matinée, début d'après-midi, quand les températures sont un petit peu plus chaudes et que les oiseaux sont un petit peu plus actifs. Et les données qu'on va collecter, nous, elles nous sont utiles derrière pour mieux connaître les oiseaux qui viennent dans les jardins, pour avoir une vision un peu plus globale de l'état de santé de ces populations d'oiseaux en France.
Et si vous avez des difficultés à reconnaître les espèces, vous allez sur le site de la LPO ou alors Oiseaux des Jardins. Tout est expliqué, vous pouvez même envoyer des photos en cas de doute. Et puis une autre opération de comptage national aura lieu au printemps, le dernier week-end de mai, cette fois pour les oiseaux nicheurs. Dans les arbres, justement, sachez qu'il n'y a pas que des oiseaux. Alors je vous ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Direction la Floride, où il se passe ça.
Yep. This is happening. It can literally rain iguanas in Florida this weekend.
Alors après la pluie de poissons dont je vous avais parlé il y a quelques jours, voici donc qu'il pleut des iguanes.
Let me show you one, the star of the show right here. This is what
ce journaliste, il est à côté d'un iguane au sol, immobile, patte en l'air, comme s'il était mort, sauf que pas du tout.
Just a little frozen up.
Il est congelé, l'iguane, en fait. Donc, je vous explique. La Floride est touchée en ce moment par une grosse vague de froid. Et dès que la température descend sous les 4 degrés, les iguanes qui ont le sang froid, ils gèlent. Et du coup, boum, ils tombent des arbres dans lesquels ils se planquent normalement. Ils restent par terre comme ça. Donc, vraiment patte en l'air allongée. Il y a des images partout sur Internet. Plusieurs heures, voire plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils se réchauffent et qu'ils se réveillent, en quelque sorte. Après, ils vont bien. Ils remontent dans leur arbre. Le service météo de Miami a mis en garde, donc, contre les chutes de température. Et également les chutes d'iguanes sur la tête, parce que ça peut surprendre.
Have a great weekend.
Thank you so much. Voilà, il peut pleuvoir des iguanes et des oiseaux. On en parlera aussi d'ailleurs avec Simon Murat tout à l'heure. Il y a un super jeu pour non pas compter les oiseaux, mais pondre des œufs.
Le fabuleux Wingspan.
Voilà, ce sera l'un des sujets que nous évoquerons avec vous tout à l'heure. Et dans un instant, on part au Burkina Faso pour découvrir un paysan qui parvient à freiner l'avancée du désert.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Attention seeking and you live for the love. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Shouldn't have.
Hurray, c'était Selassou sur France Inter. Si les parents de Simon Murat nous écoutent, qui nous donnent le nom du sanglier, parce que vous nous dites quand même hors antenne que vous avez vécu un petit sanglier à la maison.
Ça balance à l'antenne tous mes anecdotes de famille.
Mais vous ne l'avez pas gardé longtemps, vous, apparemment.
Hein. Ah, c'est mes parents, on parle des années 60, là, c'est ça. Dans la vieille cuisine, et il y avait un sanglier. Après.
Voilà, et vous avez oublié le nom du fameux sanglier. Donc l'info est d'importance.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Toute cette forêt que vous voyez était dénudée, comme cette terre-ci. J'ai laissé cette portion comme preuve parce que je sais que certains pourraient douter. Tout était comme ici. Les populations fuyaient. Je me suis dit que des personnes plus nantis que moi ont dû fuir. Il fallait alors que je trouve une alternative qui me permette de rester sur place. C'est ainsi que je me suis lancé dans la récupération de terres dégradées. J'y ai acquis des connaissances et j'ai produit de la nourriture qui me permettait de nourrir même 100 invités chez moi.
La voix de Yacouba Sawadogo, traduite par Eric Oswald, Damien Deville. Vous êtes géographe anthropologue et vous enseignez à l'Université catholique de l'Ouest et vous publiez donc L'homme qui arrêta le désert. C'est lui, Yacouba Sawadogo, chez Tana Édition, un livre qui est donc consacré à ce travail complètement hors norme, donc de ce paysan du Burkina Faso, qui a même reçu plusieurs prix, un award, entre autres, pour son travail sur l'avancée, donc, du désert. Vous êtes vous-même franco-burkinabé, c'est ça?
Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé ce livre. Merci pour cet extrait. Ça fait un an, moi, que j'ai pas vu Yacouba. C'est une émotion de réentendre sa voix. Le moré, qui est une langue aussi très chantante, remplie de paraboles, remplie d'énigmes, remplie de poésie. Le Burkina est rentré dans ma vie par une rencontre d'une fille qui deviendra rapidement ma femme. Et lorsque j'ai vécu là-bas, je crois y avoir grandi. C'est-à-dire que je connais encore mal le Burkina Faso, mais on a tous des identités plurielles. Et ce serait un magnifique message de paix que de le valoriser. Et parmi ces identités plurielles, on a des identités qu'on ne comprend pas très bien, mais qui nous regardent un peu par-dessus l'épaule et qui guident nos pas. Et je crois que le Burkina Faso est exactement cela pour moi.
Et donc vous avez vécu vos premières années de doctorat, hein, c'est ça, en particulier dans ce pays. Alors vos recherches portent entre autres sur une écologie de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire, hein?
Oui, alors moi je viens d'une école en anthropologie et en géographie qui essaye de dynamiter l'anthropocentrisme, de dynamiter cette séparation entre nature et culture, qui est sûrement l'une des sources, peut-être pas la seule, mais l'une des sources majeures des crises que l'on connaît aujourd'hui. Dynamiter cette dualité entre nature et culture, ça demande de recultiver le lien à l'autre, humain comme non humain, et de ce lien d'en faire des nouveaux projets de territoire. Et Yacouba, depuis son petit coin du Burkina Faso, en est l'un des exemples. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer d'ailleurs. Yacouba est un modèle d'enracinement. Il n'a jamais tellement bougé de sa terre et plus généralement de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, il porte le monde. C'est-à-dire, depuis son petit coin du désert, là, il a un message universel à porter, à diffuser et à partager.
Yacouba, vous pouvez nous donner quelques indices sur lui, quel âge il a et ce qu'il fait, surtout comment il agit du coup sur le terrain pour qu'on se rende compte.
Alors quel âge il a? On estime qu'il a au moins 85 ans puisqu'il n'y avait pas de recensement à sa naissance quand il est né. Moi je ne l'ai pas rencontré chez lui, je préfère le dire en transparence. On l'a rencontré à Abidjan pour faire ce livre parce que vous savez...
Pour des questions de sécurité tout simplement.
Voilà, vous savez que le nord du Burkina Faso est rattrapé par une grande violence, le djihad, qui est attristant pour tout le monde. Et la première chose qui m'a marqué par Yacouba, c'est sa force malgré son âge. C'est-à-dire qu'il a le dos courbé par une vie de tant labeur, il a la peau tannée par les hauts soleils du Burkina Faso, et pourtant, il a une présence immense. On a passé 2 semaines avec lui, jamais il a fait preuve d'impatience. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, c'est un homme de peu de mots, mais chacun de ses mots est très fortement chargé. Et toute l'entreprise de ce livre a été de détisser sa parole pour en faire justement un livre de quelques pages. Et qu'est-ce qu'il fait toute sa vie aujourd'hui?
Et comment il arrête le désert alors?
Alors il plante des arbres. Il plante des arbres et il plante pas n'importe quelle arme, il plante des arbres à vertu médicinale. Si bien qu'aujourd'hui sa forêt a 90 essences différentes. C'est quelque chose d'important parce que souvent on replante, mais on replante des essences monofonctionnelles, faisant des forêts qui sont beaucoup moins riches en biodiversité que si ces forêts étaient plurielles.
Mais comment il a eu l'idée au départ? Parce que tout a démarré, je crois, dans les années 80, avec ces famines absolument terribles dans le Sahel dont tout le monde a entendu parler. Et lui, évidemment, il essaye de trouver une solution, en tout cas.
Tout à fait. Alors, Yacouba n'était pas prédestiné à faire une carrière de paysan. Il avait plutôt envie de faire du commerce. Et puis, dans les années 80, la famine a tapé à la porte de son village. Les troupeaux ont été décimés. Les 2/3 de la population de son village a fui vers les grandes villes. Et lui a décidé de faire le chemin inverse. Il a voulu continuer à vivre dans son village, C'est ce qui a transparu aussi dans votre extrait. Et du coup, il a dû réinventer les conditions d'habitabilité, pardon, ouais. de sa terre. C'est passé par l'agriculture. Il s'est d'abord orienté vers le céréal, et puis très rapidement, en écoutant notamment la parole des chèques, il a décidé de planter des arbres.
Et il a repris en fait des traditions ancestrales, hein, c'est ça, de l'agriculture du Burkina Faso, et il a réussi donc à replanter ces arbres, d'ailleurs contre tout le monde, parce qu'on le prenait pour un dingue, je crois, dans son propre village hein, au
tout
départ.
À fait.
Hein.
C'est ce qui est très beau en fait dans son œuvre, c'est que planter un arbre chez lui dépasse de très loin la seule pratique agricole. Je pense que c'est une réconciliation au moins de trois types de savoirs. Des savoirs agronomiques, notamment en renouant avec la technique du zaï, qui consiste à planter des arbres pendant la saison sèche, là où on le fait d'habitude pendant la saison des pluies. Des savoirs aussi qui sont liés à la grande culture mossi. Sawadogo en moré, ça veut dire faiseur de pluie.
Donc ça, c'est son nom de famille.
Son nom de famille. Et du coup, sa grande lignée familiale était connue pour ceux qui appelaient les nuages et qui remettaient de la fertilité dans les sols. Et puis, Yacouba est issu de l'école coranique, est issu des mondes de l'islam. Et c'est notamment par des actes spirituels, à la fois issus de l'islam et de l'animisme. Vous savez qu'on dit en Afrique que tout le monde pratique de l'animisme, même si on a une autre religion, qu'il a cultivé, qu'il a porté ses pratiques agricoles. Sa forêt réconcilie savoir agronomique, savoir spirituel, savoir traditionnel.
Et ça représente quoi alors son travail justement sur 40 années, puisqu'aujourd'hui, vous le dites, hein, c'est un paysan âgé. Ça représente quoi en superficie et réellement sur l'avancée du désert? Est-ce qu'il y a eu un impact remarquable?
Oui, alors la forêt de Yacouba est très localisée dans un tout petit village du Burkina qu'on appelle Gourga, dans la province du Yatenga. En tout cas, à l'échelle de son village, il a eu des résultats. Plusieurs. Déjà aujourd'hui, c'est une forêt de 40 hectares qui est extrêmement diversifiée d'un point de vue des essences d'arbres. La biche, le hérisson, les oiseaux sont revenus. Ça lui a coûté la patience d'une vie de pouvoir les revoir, mais ça y est, ils sont là. Et puis, cette forêt a créé un microclimat incroyable permettant la fertilité des céréales autour. Des agriculteurs se sont réinstallés dans son village et continuent à cultiver la terre. Il est un des exemples de ce que de certains scientifiques appellent la grande muraille verte. Voilà.
Oui, dont on entend beaucoup parler sans beaucoup de résultats.
Oui, parce qu'elle est aussi assez critiquée, donc c'est ce que je voulais vous demander, parce qu'effectivement, là, vous dites qu'il a planté des arbres, c'est super, mais vous savez, vu d'Occident presque, enfin vu de France en tout cas, souvent on dit planter des arbres, c'est la solution facile. Vous pouvez expliquer en quoi c'est vraiment là-bas, en tout cas sur ce village-là et dans cette zone-là, hyper important, parce que vu d'ici, quand on entend « je vais planter des arbres », en fait, presque on se moque, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, et d'ailleurs je suis moi-même assez critique du terme de « grande muraille verte », c'est pas un terme que j'utilise dans le livre, c'est pas un terme que Yacouba utilise lui-même, c'est un terme d'occidentaux, pour deux raisons. D'une part parce qu'on parle d'un territoire qui va du Sénégal à l'Éthiopie, bercé par une diversité de cultures, une diversité de territoires, une diversité de paysages. Et d'autre part, parce que le terme de muraille fait référence à un vocabulaire très martial, là où certains peuples du Burkina, je pense aux Peuls, je pense aux Touaregs, vivent du désert. Ils ont les dunes tatouées sur la peau au sens littéral du terme. Et c'est cette complexité qu'il faut embrasser dans les projets de replantation. C'est cette complexité qu'a embrassé Yacouba Sawadogo. C'est-à-dire qu'il n'a pas planté des arbres juste pour planter des arbres. Il a planté des arbres pour permettre à la vie de revenir dans son village.
Et c'est toute la vie, hein, d'ailleurs. Hein. C'est
toute la vie
des habitants et la vie aussi de la faune ou de la flore locale. Hein.
Donc il a choisi ses semences, il a choisi ses pratiques agricoles, il a choisi ses manières de faire, ses manières de valoriser aussi les vertus médicinales de ses arbres en fonction de la culture mossi, en fonction des singularités paysagères de son territoire. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense, en replantant partout dans le monde, c'est de puiser dans les singularités qui font la force de chaque territoire.
Damien Deville, on le disait, c'est un pays, le Burkina Faso, fortement touché par les attentats djihadistes. Et puis le pays a connu cette semaine un putsch avec l'arrivée donc au pouvoir d'un militaire de 41 ans qui a renversé lundi le président qui avait été réélu en 2020 pour un second mandat. La situation reste donc très très chaotique et même lui, il a subi en fait des représailles.
Oui, alors qu'ils sont pas du même ordre, il a eu des formes de jalousie liées à son succès, liées à sa forêt, par des incendies volontaires dans les parcelles qu'il avait plantées. Aujourd'hui, l'un des derniers attentats du Burkina Faso a eu lieu à 40 km de chez lui. Mmh. Donc effectivement, le front du djihad se rapproche des grandes villes du Burkina. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et ce que vous venez de dire, Mathieu, c'est qu'effectivement, au Burkina Faso, se berce comme partout, finalement, les espoirs et les chaos des mondes contemporains. Et je pense que l'objet d'une belle politique, là-bas comme ailleurs, c'est de faire en sorte que les espoirs gagnent du terrain sur les chaos.
Je voudrais renvoyer un article d'une consoeur, Agnès Fèvre, qui est correspondante là-bas sur place pour un certain nombre de journaux, dont Libération. Elle avait publié, elle travaille beaucoup, hein, il y a beaucoup d'articles qui sortent évidemment cette semaine, mais elle avait publié en décembre un article justement sur le djihad qui entre dans les champs. Le sud-ouest du pays, effectivement, est touché par les violences des groupes et pour la première fois, les récoltes même sont perturbées. Donc ça va très très loin, hein, sur la façon dont ça impacte la société là-bas. Hein.
Tout à fait, tout est bouleversé. Il y a des mouvements démographiques très forts. Je crois que les derniers chiffres parlent de 1,5 million de déplacés. Il y a des territoires qui sont plus du tout habités. Et cela provoque effectivement... Ça peut aller jusqu'à la famine.
Et il ne faut pas oublier en parallèle aussi, évidemment, l'avancée du désert, aussi respectable et admirable soit la forêt qu'a créée Yacouba, le désert continue d'avancer.
Tout à fait, mais en grande partie parce que je crois que nombre de territoires ne sont plus habités. Le Burkina Faso, comme la France, connaît des exodes ruraux majeurs, c'est-à-dire que les gens fuient les villages pour les espoirs des grandes villes. Or, la biodiversité se crée en grande partie parce qu'on habite de manière juste, de manière belle un territoire. Et ça, c'est une grande question qu'il y a dans mes travaux, c'est qu'au fond, pour réconcilier nature et culture, pour faire face aux crises, il n'y a pas tellement de territoires dans lesquels on peut habiter, des territoires dans lesquels on ne peut pas habiter. La vraie question écologique, à mon sens, c'est de savoir comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques.
Vous publiez donc L'homme qui arrêta le désert chez Tana Édition, Damien Deville, vous qui êtes géographe et anthropologue. Vous restez avec nous dans un instant, on ouvre les boîtes de jeu, on installe les plateaux et on joue autour de la nature et de l'espace avec Simon Murat du Passe-Temps à Toulouse.
Sur la toile, ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile, ah ouais.
Liquide, c'était Feu Chatterton.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Salut, camarades de la chose ludique. Moi, c'est Simon. Et ça fait 20 ans que je joue quotidiennement à ma passion, les jeux de société. Des joueurs tels que moi, à l'époque, on n'était qu'une poignée en France. Mais des passionnés de jeux, de nos jours, il y en a partout. Dans vos amis, dans votre famille, dans vos collègues, ici. Des jeux de société, il y en a 3000, des dizaines qui débarquent chaque semaine, des centaines de manières différentes de vous divertir. On va à l'abordage des 10 jeux qui sont idéaux pour bien commencer dans les jeux de société. Attention, ils pourraient bien changer votre vie.
Simon Murat, camarade de la chose ludique. Vous êtes donc à la tête du magasin Le Passe-Temps, spécialisé donc en jeux de société. C'est à Toulouse, rue des Lois. Et vous avez aussi créé votre chaîne YouTube dans laquelle vous présentez. Donc on le disait, le rythme, c'est quasiment toutes les semaines.
Toutes les semaines. On fait des vidéos qui s'appellent C'est Dispo pour dire voilà ce qui vient d'arriver dans les boutiques de jeux cette semaine. 20-30 jeux par semaine.
Voilà, sur un rythme frénétique, dans de nombreuses situations. Vous voyez avec vos collègues, vos amis, vous mettez absolument tout le monde à contribution. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est comment on arrive à présenter autant de jeux chaque semaine lorsqu'il faut retenir les règles et être capable de les expliquer aux autres. Ça, c'est un truc de dingue quand même, non?
C'est un métier, vous savez.
Oui, bien sûr. Mais vous avez un cerveau particulier pour le jeu ou pas?
Non, mais après, il faut se dire un truc, c'est que j'en parle. J'y joue déjà à ces jeux-là.
Donc quand on
en reparle derrière, on a du vécu, on a des choses qui remontent. Ah oui, avant quelqu'un avait fait ça, avait joué telle carte. Et puis moi, après, je les ai sous les yeux toute la journée. Ouais. Ils ont un impact plus fort sur ma vie parce que je les vends, je les défends ou pas. Mais du coup, j'ai sans doute plus de... Ils ont plus d'impact sur ma vie, donc j'ai plus facilité.
Vous jouez beaucoup alors ?
Ah ben bah oui.
Tous les soirs vous jouez ou pas?
Vous vendez la journée, vous jouez le soir.
Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Je crois que c'est, si les auditeurs ou si vous voulez arriver à comprendre la démarche, c'est à quasiment celle d'un libraire qui a besoin de lire des livres pour dire, oh dis donc, je l'ai lu, il est vachement bien, mais moi je joue à des jeux.
Et d'ailleurs, il faut parler des auteurs de ces jeux, parce qu'aujourd'hui il y a de vrais auteurs qui sont aussi des auteurs de best-sellers et il faut les connaître comme on connaît les auteurs de livres.
Mais c'est exactement ça, c'est rigoureusement les mêmes parallèles. Il y a des gens qui rentrent dans le magasin pour dire, je viens acheter le dernier Bruno Catala, je viens acheter le dernier Antoine Boza, comme on achèterait un Amélie Nothomb ou un Houellebecq.
Ouais. Jean-David Moreau, est-ce que vous jouez, vous, le paléontologue?
Oui, écoutez, je m'y suis mis assez récemment, mais en effet. Alors moi, dernièrement, j'ai entendu parler d'un jeu justement en lien avec la paléontologie, qui est le jeu Paléo, que j'ai pas encore joué, mais on me l'a conseillé.
Ah, mais c'est super bien.
Vous le validez?
Ah oui, complètement.
C'est quoi Paléo?
Paléo, c'est un jeu coopératif dans lequel on incarne une tribu du paléolithique et on cherche à survivre à des événements qui vont arriver. On doit survivre à des attaques de loups, de mammouths, à la cueillette de champignons.
Damien Deville, vous jouez, vous, ou pas?
Énormément, et
c'est vrai
longtemps.
Et c'est quoi votre jeu fétiche alors?
Ah, mon jeu fétiche, il y en a beaucoup. Allez, peut-être un petit panthéon personnel en ce moment, du moins Splendor, auquel on joue beaucoup. Targhi, pour faire référence au Touareg également, une manière d'inviter le Burkina Faso sur sa table. Et allez, peut-être Takenoko aussi.
Ah ben, il est cité par nos auditeurs, puisqu'on leur a demandé quel est votre jeu préféré en lien avec la nature et l'espace. Et Takenoko, il figure, c'est l'histoire d'un jardinier japonais, c'est ça hein?
Oui, on va faire pousser une bambouserie autour du palais de l'empereur.
Ah, pas mal.
Et il faudra lui faire sa belle bambouserie. Il y a un panda qui se balade dedans et qui mange des bambous au fur et à mesure.
Ah, bah oui.
C'est quoi les règles d'un bon jeu? Alors, on reste évidemment dans la thématique nature-espace, mais pour que vraiment ça prenne, quoi. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un climax. Quel est l'ingrédient secret?
Ah, c'est comme si vous demandiez à un auteur, c'est quoi un bon livre?
Tant qu'utilisateur, justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a un jeu au bout de 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, on va dire, oh non, c'est bon, j'arrête? Ou alors, on est à fond dedans et on va vouloir y jouer toute la soirée?
Ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y avait une notion de rythme dans le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'enchaîne en permanence et qu'il n'y ait pas de temps mort. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de moment où on regarde quelqu'un d'autre au bout de la table en train de jouer sans avoir de prise d'action sur le jeu. Désormais, les jeux auxquels on joue de nos jours, qui sont créés de nos jours, sont pour la plupart joués en simultané. On parlait de Paléo, on est tout le temps en train de jouer en même temps. Il n'y a pas de tour de jeu. Et c'est donc cette simultanéité-là fait qu'on ne décroche jamais. On a la tête dans le guidon tout le long.
Et les jeux de société ont un vrai succès aujourd'hui comparé au succès des jeux vidéo, par exemple, ce qui n'a rien à voir.
Ouais, c'est des loisirs, comment dire.
Mais il y a un vrai retour, j'imagine, avec les histoires de confinement, etc. Ça a dû beaucoup
en
aider.
En fait, on estime, on le situe au début des années 2000, le renouveau un peu des jeux de société. Et c'est une pente qui monte lentement. Et depuis le confinement, ça monte pas lentement. Explosion.
Jean-Denis Moreau, vous avez commencé à jouer pendant le confinement?
Tout à fait, en fait. Hein, c'est tout à fait ça.
Alors, vous jouez tout le temps, Simon Murat, et même en vacances, vous jouez, vous enregistrez des vidéos sur YouTube. Exemple, en Islande, sur le pont d'un bateau.
Salut, camarades de la chose ludique. J'étais sur le pont d'un bateau en Islande, j'ai regardé des mouettes et je me suis dit, j'ai grave envie de vous parler de Wingspan. Je parle sans doute très fort parce que derrière moi il y a un bruit de moteur de bateau, je sais pas le bruit que ça fait, c'est absolument n'importe quoi cette vidéo. Mais j'avais vraiment vraiment envie de vous parler de ça. Je suis en vacances en Islande avec mon ami Paul Chabat qui tient la caméra. On fera coucou juste après. Le mieux c'est que vous me suiviez à l'intérieur du bateau. Je suis avec Hugo, mon compagnon, qui est un méga fan de Wingspan. Et on va aller voir un peu comment ça joue et à quel point c'est cool parce que depuis le début de mes vacances, j'arrête pas d'y jouer. Suivez-moi.
Voilà, il est dingue, je vous l'avais dit, même sur son bateau.
J'ai l'impression d'être fou.
Vous n'avez pas croisé Björk, parce qu'apparemment vous l'aimez bien aussi. Alors,
j'aurais adoré la croiser, mais j'aurais pas su quoi lui dire.
Alors Wingspan, faut en parler quand même de ce
c'est
jeu.
C'est quoi Wingspan?
Alors Wingspan,
c'est le jeu des oiseaux. Hein.
C'est le jeu des oiseaux. Quand on le voit, c'est une grande boîte bleu ciel avec un oiseau qui étend ses ailes comme ça dessus. C'est un jeu créé par Elisabeth Hargrave, qui est une ornithologue. Et c'est un jeu dans lequel il va falloir faire la plus belle collection d'oiseaux possible. Et on a chacun devant nous un petit plateau avec une forêt, des plaines, une rivière, et on va piocher et jouer des oiseaux dessus au fur et à mesure. Chaque oiseau, c'est vraiment un oiseau existant, qui est référencé selon son type de nid, le nombre d'œufs qu'il peut pondre, et c'est à qui fera la meilleure collection d'oiseaux au fur et à mesure de la partie.
Et on va pondre des œufs en plus.
On met des petits œufs. Vous savez, à Pâques, il y a toujours des petits œufs en sucre là. Il y a des petits œufs dans la boîte qui ressemblent à ça qu'on pose sur les oiseaux.
Est-ce que ça veut dire qu'à une époque, la grande époque, c'était le Monopoly, c'était le jeu avec petit profit à l'arrivée? Aujourd'hui, la tendance, c'est le jeu écolo. Elle est vraiment en hausse, cette tendance-là?
Alors, cette tendance est très, très en hausse, mais effectivement, bon, le Monopoly, tout ça, c'est vrai que ça reste des images. qu'on a un peu comme des images d'Épinal de ce qu'est le jeu de société, mais qui est battu en brèche depuis une vingtaine d'années par l'arrivée de beaucoup, beaucoup de choses. Ces jeux sur la nature, Wingspan a un peu démocratisé ça. Les gens se sont dit, ah mais oui, on peut jouer avec des oiseaux, la nature, ça plaît, allons-y. Il y a des gens qui sont engouffrés là-dedans ensuite.
Alors Nicolas sur Twitter nous écrit, l'éditeur Jeu Hopla fait des jeux très accessibles, éco-conçus, fabriqués en France. Sa gamme nature est axée sur des thématiques écologiques. Il nous cite, il était une forêt, Migrato, la glace et le ciel, à recommander fortement. Vous recommandez ou pas?
Très fortement. Puis eux, ils accompagnent, voilà ce que dit Nicolas, ils accompagnent le geste à la parole. C'est-à-dire qu'ils font des jeux sur l'écologie, mais ils les conçoivent en plus écologiquement, en se posant des questions que peu de monde dans le monde du jeu se pose, un peu des précurseurs là-dessus.
Parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les jeux.
C'est le drame. Ouais. C'est que dès que vous voulez mettre un dé, c'est du plastique, c'est forcément fabriqué en Chine. Et donc là, il y a des mouvements depuis 2 ans, de gens qui essaient justement de dire, on déconstruit ça, on fabrique en Europe, on enlève ces composants-là à l'intérieur des jeux.
D'autres jeux d'environnement, Rescue Polar Bear par exemple, pour sauver les ours.
Excellent, Rescue Polar Bear, ouais.
Canopée.
Ouais.
Le petit composteur pour les plus jeunes. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. C'est des Lyonnaises, Ophélie Pito et Fanny Robergeau, un jeu de cartes pour les plus jeunes, qui propose d'initier justement les enfants à la pratique du compostage.
Et on a un message aussi qui pour un jeu dont on avait parlé dans l'émission d'ailleurs, Mathieu, Climat Tic Tac, qui a été primé par le CNRS il y a quelques mois. Est-ce que vous recommandez, parce que là c'est vraiment sur, là on parle de biodiversité depuis tout à l'heure, mais les jeux sur l'enjeu climatique, est-ce qu'il n'y a pas un côté ultra anxiogène, un petit peu contre-productif?
En fait, ce qui va être contre-productif, c'est quand le jeu n'est pas fait pour vous, comment dire. Un jeu, ça ne doit avoir aucun intérêt. Si vous jouez, c'est pour vous divertir et c'est tout. Et c'est comme ça qu'un jeu marche. Et si les jeux sont conçus avant tout pour vous apprendre des choses, ben, vous êtes en train d'apprendre des choses et aussi de jouer. Mais du coup, l'acte principal de jouer n'est pas là. Et donc, sur ces jeux-là qui cherchent avant tout à vous apprendre des choses, ben vous êtes en train d'apprendre, vous n'êtes pas en train de jouer. Donc ça ne marche pas aussi bien.
Le commentaire sur Climat Tic Tac dans vos vidéos, je l'ai vu, il dure 5 secondes. C'est genre...
L'idée est chouette. On a envie que ça marche. On a envie, tiens, oui, génial. On va avoir à la fois un jeu qui est un propos, mais hélas, c'est trop éducatif. Et donc on n'est pas en train de s'en amuser. Je pense que ça rate un peu sa démarche. Alors qu'il... Bon. Il y avait moyen de faire plus pertinent.
Et il y en a qui sont assez réussis dans ce domaine, même du réchauffement climatique. Il y a des jeux très intéressants aussi.
Vous prenez Rescue Polar Bear. Ouais. Ça, vous êtes en train de jouer un jeu, de vous poser des questions stratégiques et derrière, vous comprenez, vous apprenez des choses.
Simon Murat et l'espace, parce qu'on parle de la nature, mais on peut aussi parler de l'espace. Welcome to the Moon. Ça, c'est un des best-sellers. Et en plus, c'est toulousain, je ne savais pas.
Ah bah oui, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Et celui-là, il vient de Toulouse.
Je comprends pourquoi vous n'arrêtez pas d'en parler de ce jeu alors.
Corruption, c'est des amis. Mais il se trouve que c'est des amis qui font des bons jeux. Ah ben voilà, la vie est belle. Ouais. Oui, effectivement, c'est un jeu dans lequel on va partir, on va dire, à la conquête de la Lune, au travers de 8 petits plateaux. Comme on achète 8 jeux en un, dans le premier, on construit une fusée, dans le deuxième, on part dans l'espace, dans le troisième, on arrive sur la Lune et on crée une base, dans le quatrième, on extrait des ressources. Et comme ça, on retrouve 8 jeux qui nous racontent toute une épopée.
Et on écrit dessus directement, ça s'efface, évidemment.
Exactement.
D'ailleurs, faudrait leur dire de faire des stylos un peu moins épais, si c'est possible.
Ah, c'est tout. Alors ça, c'est encore une autre problématique, c'est des stylos fabriqués en Chine, ils cherchent à les changer.
Les messages perso, Mathieu Vidard.
Mais non, parce que j'aime bien ce jeu et je trouve que les stylos sont trop gras.
Oui.
Voilà, donc ils
le savent. Ils nous écoutent.
Une question, tous ces jeux-là, nature-espace, est-ce que ce sont des jeux qui sont plutôt faits pour les adultes? Est-ce que ce sont des jeux qui sont faits pour jouer en famille? Ou il y en a qui sont carrément seulement pour les enfants? Enfin voilà, est-ce que c'est très intergénérationnel ou est-ce qu'il y a quand même des cibles un peu privilégiées?
Non, vous allez en trouver pour tout âge. Déjà, l'image du jeu pour enfants, elle est déjà un peu passée. Les jeux s'adressent vraiment à tout le monde et à partir
de Hippoglouton.
Oui, voilà. Mais celui-là, Hippoglouton, c'est déjà une référence qui date maintenant de notre enfance. Mais non, il y en a qui parlent à tous les âges, à tout le monde, à toutes les époques.
Et les Français, on est bons en jeu, aussi bien pour jouer que pour les fabriquer.
On est les leaders mondiaux en jeu.
Allez, Simon Murat, le passe-temps à Toulouse, c'est 30 rue des Lois pour ceux qui souhaitent vous rencontrer, mais aussi les vidéos sur YouTube qui valent le détour, parce que vous vous déguisez, vous faites tout un tas d'imitations. On ne sait pas ce que vous prenez, mais en tout cas, vous êtes plein d'énergie et donc on peut en savoir plus. Et avec les auditeurs également, leur jeu préféré, vous allez sur les liens de La Terre au Carré, le compte Instagram et Twitter pour nous dire ce que vous préférez. Merci beaucoup Simon Murat et merci à nos autres invités. À très bientôt. Toutes les références des infos sont sur le site de l'émission.